Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'Université de Nîmes Campus de Mende, 48 FM et Lozère Développement grâce au programme DEFIOC de la région Occitanie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 48 Digital. Nous sommes en direct du pôle lozérien numérique, d'économie numérique, pardon, et sur la radio 48 FM, ainsi que sur la page Facebook de Lozère Développement dans le cadre du projet DEFIOC. Je suis Sarah, je serai votre présentatrice du jour. Je suis étudiante en licence professionnelle CNEA de l'antenne universitaire de Nîmes à Mende et je suis accompagnée de mes trois super camarades, Christophe, Marine et Camille. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème très actuel et controversé, l'intelligence artificielle. Alors que l'IA devient un outil de plus en plus accessible, elle soulève des questions de fond qui nous concernent tous. Quel impact sur les métiers de la communication aura-t-elle ? Quel danger représentera-t-elle dans le domaine des fake news ? Et quel sera son rôle dans les formations à distance ? Pour répondre à nos questions et nous partager son analyse du sujet, Quentin Belin nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Quentin.
Et bonjour.
Vous êtes graphiste chez AFA Multimédia. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre formation ?
Alors donc oui, je m'appelle Quentin, je suis graphiste AFA Multimédia comme vous l'avez dit. Donc j'ai fait un bac art appliqué pour ensuite enchaîner sur des études supérieures en illustration. J'ai travaillé en tant que graphiste indépendant pendant quelques années. Ensuite je me suis reformé quand je suis venu en Lozère à Mende ici en licence pro CNEA, la même licence que vous faites ici. Voilà. Et j'ai rencontré donc un des intervenants, un des professeurs et mon futur associé Aurélien Foisse. J'ai fait mon stage chez lui, chez AFA Multimédia. Ça s'est bien passé et donc on s'est associés il y a maintenant quelques années de ça, je sais pas, 5-6 ans à peu près. Et voilà. Et donc maintenant je suis co-gérant et graphiste de l'agence avec Aurélien.
Très bien. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise actuelle ?
Oui, donc une agence de communication créative et 360. Donc on conçoit et on crée donc des outils, des supports de communication pour nos clients, donc des entreprises, des institutions, tout type d'organisation professionnelle. On a un peu trois grands pôles d'activité, la conception, donc l'identité visuelle, conception de logo, de charte graphique, flyer, carte de visite, voilà, tout ce qui se crée, tout le cœur du métier de graphiste. Le pôle développement, donc développement de sites web sur mesure ou non, vitrine, e-commerce et d'applications aussi sur mesure en fonction des demandes. On s'adapte en fait à un peu toutes les demandes de nos clients. Et le troisième pôle qui est plutôt la production de contenu, où là donc production de contenu, rédaction de contenu, mais aussi photos, vidéos et tout ce qui touche aux nouvelles technologies comme réalité virtuelle, réalité augmentée. Voilà, on touche un peu à tout, on n'est pas beaucoup, mais on est passionné par nos métiers. Donc on a un peu des petits couteaux suisses lozériens, quoi. Voilà.
Je vois. Très bien. Alors on va parler un petit peu d'intelligence artificielle, puisque c'est le thème de l'émission. Est-ce que vous vous servez de l'IA dans votre travail aujourd'hui ?
Et non, on s'en sert pas. Donc voilà, désolé.
Merci, très bien.
Non, bien sûr, voilà. Bien sûr, on s'en sert pour plusieurs choses. Alors je parlais moi personnellement et ensuite je parlais aussi des équipes, donc de Camille, ma développeuse, et Aurélien, mon associé, on est trois dans l'agence. Donc moi en tant que graphiste, je l'utilise pour plusieurs choses. Je suis toujours un peu en phase d'expérimentation liée à l'IA parce que c'est nouveau, ça fait 2-3 ans qu'on l'utilise. On va l'utiliser dans des phases de recherche. Faut savoir que quand on conçoit un objet graphique, quel qu'il soit, un flyer, un site, tout ce que vous voulez, il y a toujours une phase de recherche et d'inspiration. Et cette phase de recherche se faisait, donc il faut nourrir son cerveau d'images. Ça fait 10-15 ans qu'on fait ça en tant que graphiste, on se nourrit d'images. Mais on va sur des sites, on a différents sites où les graphistes, on partage nos créations et ça nous donne des idées, ça nous donne l'inspiration. On vient suivre les tendances un petit peu, et en fonction des besoins, des attentes, des modes aussi qu'il y a dans le métier. Et donc l'IA est venue là comme un premier outil d'inspiration aussi. En fait, on va venir faire nos recherches en plus grâce à différentes plateformes d'intelligence artificielle. J'utilise pas rarement l'intelligence artificielle, enfin les images qui sont produites par l'IA brute, mais elles vont me donner des idées. Des fois que j'aurais pas ou des pistes que j'aurais pas forcément explorées. On va l'utiliser aussi quand certains de nos clients ont besoin d'images. On peut l'utiliser donc souvent, soit on fait les photos quand un client nous demande, on va produire nous-mêmes ces images-là. Des fois, il n'y a pas forcément les budgets pour, donc on va dans des banques d'images aussi pour aller chercher ces photos. Ou aussi, ben, maintenant, on va générer ces images via des IA. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les banques photos qui existent aussi créent elles-mêmes aussi des IA, enfin des images générées par IA. Donc on vient les utiliser par ça. Souvent, après, c'est rare qu'on les utilise brut aussi, on va les modifier pour les utiliser. Il y a aussi l'IA, avant même de toute cette IA générative qui existe, l'IA était déjà présente dans nos logiciels. En fait, on a des logiciels de PAO, donc de conception graphique, qui utilisent l'IA pour certaines tâches très spécifiques. Par exemple, en photo, quand on a une photo qui a beaucoup de bruit, on va à ce qu'on appelle la dénoiser, donc enlever le bruit, et ça se fait aussi grâce à des IA. Il y a aussi des logiciels très spécifiques qui nous permettent qui sont basés sur des systèmes d'IA avec des algos assez complexes qui nous permettent d'agrandir des images. Par exemple, sur les vieilles séries américaines où on voyait une vieille photo, un truc de caméra de surveillance, ah, c'est lui l'assassin, mais on voit pas très bien. Ils zoomaient à fond 100 fois dessus, c'était 4 pixels qui devenaient une vraie photo. Maintenant, c'est à peu près possible, alors pas à ce point-là quand même, mais ça nous permet de récupérer des vieilles photos, de les agrandir, tout ça, et en vidéo, pareil, des vieilles vidéos qui ont une qualité assez basse, on vient augmenter la qualité pour pouvoir les rendre plus actuelles et plus intéressantes d'un point de vue définition. Voilà, ça c'est un peu sur la partie graphique création qu'on utilise. Sur la partie développement, mais je crois que le second intervenant en parlera mieux que moi, mais juste pour en parler vite fait, ma collègue Camille et mon associé Aurélien qui est développeur aussi de métier, l'utilisent aussi quand ils sont bloqués ou pour chercher des solutions à des problèmes de développement. Avant, quand on était bloqué, on allait sur les forums, et on fait toujours, attention, hein, ça, on en reviendra après, mais l'IA est un outil supplémentaire. On allait sur des forums où on partageait via la communauté, on essayait de trouver des solutions comme ça, parce que souvent, quand on est confronté à un problème de développement, la solution existe déjà. Et là, grâce à l'IA, on a des brides de solutions qui nous permettent de résoudre une partie du problème.
Voilà. Donc on voit qu'elle a quand même transformé la manière un petit peu dont vous concevez et développez les projets visuels.
Ouais, elle a transformé, elle a fait évoluer. Ça a fait évoluer un petit peu tout ça. Même si on est toujours en phase d'expérimentation, on se questionne toujours aussi via l'IA. Je pense qu'on y revient, on en parlera après. Mais oui, bien sûr, ça, c'est une grosse évolution dans notre métier. Et nos métiers dans le numérique sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Et il faut savoir appréhender toutes ces évolutions pour toujours un peu être au courant et pour essayer de faire au mieux notre métier. Après tout ça, se posent toutes les questions éthiques et tout ça, bien sûr, mais juste dans l'application de cette IA, dans l'utilisation, ouais, carrément, quand on l'utilise et ça fait évoluer nos métiers, et ça continue.
Très bien. On va évoquer la notion de gain de temps. Est-ce que l'IA permet de gagner du temps sur certaines tâches répétitives? Si oui, est-ce que vous auriez un exemple concret, pardon?
Nous, on n'a pas forcément de tâches répétitives dans ce qu'on fait. Tous nos projets sont différents, et c'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on adore dans notre métier aussi, parce que tous nos clients sont différents, ils ont tous des problématiques et des objectifs différents quand ils viennent nous voir, simples, complexes, voilà, tout est différent. Donc c'est rare qu'on ait des tâches répétitives dans ce qu'on fait. Donc sur des tâches répétitives, non, moi j'en ai pas. Par contre, oui, ça peut aider, je pense à des tâches répétitives dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité, etc., sur de la prise de notes, sur plein de choses. Là, l'IA peut vraiment être un support et un outil énorme pour aider certaines personnes à faire ces tâches-là. Nous, je n'ai pas d'exemple à donner sur des tâches répétitives.
Ça marche. Est-ce que vous pensez que l'IA favorise ou limite la créativité dans votre travail ?
Alors je vais faire des réponses de politicien tout le long en fait, malheureusement. Je vais pas pouvoir répondre de manière manichéenne, noir et blanc à chaque fois, parce que tout est gris avec l'IA en ce moment. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on est toujours en phase de questionnement face à cette nouvelle technologie. Elle limite, oui, et elle permet d'être plus créatif, oui. En fait, ça dépend comment on utilise. Si on utilise juste sur des images qu'on va générer via des IA comme Midjourney ou DALL-E par exemple, et on utilise juste ça sans avoir de réflexion autre que générer une image, waouh, j'ai généré une image, génial, ouais, ça va limiter totalement, on va pas aller plus loin. Par contre, dans s'ouvrir des possibilités créatives, bah, bien sûr que là ça devient intéressant. Mais en fait, comme tout outil, il faut savoir le prendre, en faire ce qu'on a envie d'en faire, et pas juste être spectateur de l'outil, mais être acteur avec cet outil-là. Voilà, ça c'est vraiment super important, je pense.
Oui. Alors, on va aborder la notion aussi de concurrence et d'accessibilité des services. Avec l'intelligence artificielle rendant certaines tâches plus accessibles, est-ce que vous avez remarqué un changement dans la concurrence, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles personnes non formées, mais qui utilisent l'IA, et ce qui leur permet de décrocher des contrats à l'instar des professionnels comme vous ?
Non, enfin là maintenant, non, pas forcément. On n'a pas attendu l'IA pour voir que certaines personnes essayaient de concurrencer des professionnels, et en même temps tout le monde a le droit de concurrencer tout le monde, enfin n'importe qui peut devenir graphiste professionnel, il n'y a pas eu besoin de l'IA de devenir graphiste, il n'y a pas forcément besoin de formation pour se lancer dans ce métier là non plus. Donc non, l'IA n'a pas augmenté la concurrence, en tout cas pour l'instant, parce que si certains de nos clients, enfin qui ne sont pas des clients, si certains professionnels utilisent l'IA en interne, dans tous les cas, ils n'auraient pas forcément fait appel à nous. Ils auraient trouvé d'autres solutions pour créer leur logo. Par exemple, avant l'IA, ils seraient passés par Canva. Avant Canva, ils seraient passés par Word, par exemple. En tout cas, ils auraient trouvé des solutions parce que ce sont des profils plus débrouillards, parce qu'ils veulent faire ça en interne. Ils auraient trouvé le cousin du cousin qui dessine un petit peu et qui aurait fait... Voilà, donc ça ne nous impacte pas vraiment. Parce que quand on fait appel à une agence de communication, on ne veut pas juste générer des images. On ne veut pas ce que fait juste l'IA. On veut autre chose. On veut un vrai accompagnement sur des projets. On veut répondre à des problématiques, mettre en place des objectifs, Il y a tout un travail d'accompagnement humain qui est super important, ce que peut pas faire juste un outil. Voilà.
On est rassuré. Est-ce que l'IA permet aux petites agences de rivaliser avec les plus grandes, ou est-ce qu'au contraire, elle exacerbe les différences selon vous ?
Donc on est une petite agence et on n'a pas besoin de l'IA pour concurrencer les grosses agences. Non, c'est la matière grise, c'est l'expérience des personnes qui sont dans une agence qui vont pouvoir concurrencer des plus grosses agences. C'est tout le background qu'on a, c'est tout ce qu'on va apporter, c'est notre vision sur le métier. Tout ce qu'une IA pour l'instant n'est pas capable de comprendre et d'interpréter pour répondre à tout ça. L'IA peut pas encore non plus, je dis pas encore parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, remplacer des ressources humaines. Donc non, on n'a pas forcément besoin de l'IA pour en tout cas répondre à certains appels d'offres que des très grosses agences vont répondre.
En tout cas, positif ou négatif, les avis sur l'IA sont nombreux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent et qu'elle commence dans certains domaines à poser question, notamment dans celui de la communication. Camille, tu as étudié la question, nous t'écoutons.
Bonjour à tous, bonjour Sarah, bonjour Quentin. En effet, depuis l'arrivée de l'IA, les métiers de la communication évoluent vite, avec autant de curiosité que d'inquiétude. Si une IA peut créer une image en quelques minutes, les entreprises auront-elles encore besoin de graphistes ? Beaucoup craignent que l'automatisation supprime des emplois. Pourtant, la réalité est plus complexe, heureusement. Des outils comme Canva concurrencent déjà les professionnels de la communication, tels que les graphistes, les community managers ou les web designers, en permettant aux utilisateurs de générer facilement des visuels, images, logos ou cartes de visite. Pour les entreprises désireuses de réduire leurs coûts, faire appel à des experts peut sembler superflu. Maintenant, avec l'essor de l'IA, de nouvelles questions se posent. L'IA pourrait-elle éventuellement prendre en charge des rôles créatifs comme celle d'un designer graphique ? Il semblerait que non. La créativité fait appel à des qualités humaines. Elle est plus que la simple capacité de générer des idées. Cela implique la capacité de faire preuve d'empathie, de comprendre les besoins des clients et de proposer des solutions qui répondent à ses besoins d'une manière unique. La marque de maillot de bain et de lingerie française Undies a pour sa campagne d'été 2023 utilisé deux IA génératives, Midjourney et Stable Division. Marie Dariol, directrice marketing et digitale de la marque, a souligné dans une interview donnée à La Réclame, qui est un site français dédié à la créativité et à l'innovation dans le monde du marketing et de la communication, que la charge de travail était comparable à celle d'une campagne photo traditionnelle. L'agence Cowboy, spécialisée dans la création de contenus de luxe, ainsi que des photographes et des graphistes, ont été mobilisés pour concevoir la campagne, tandis que l'IA a seulement été utilisée pour créer les décors sous-marins et des modèles fictifs. Elle précise à la fin de son interview que la marque ne prévoit pas de réutiliser l'IA pour ses prochaines campagnes, bien qu'elle en ait été satisfaite. À mon sens, il est clair que les créations générées par l'IA manquent souvent de personnalité et d'originalité, ou du moins qu'elles ne peuvent pas être utilisées brutes sans retravail de l'humain. Alors que certaines entreprises peuvent être tentées par les solutions automatisées, ils reconnaissent souvent la valeur ajoutée des agences pour une identité visuelle cohérente et efficace. Ainsi, les agences de communication jouent un rôle crucial dans le domaine du design graphique, malgré les avancées technologiques. Plutôt que de voir l'IA comme une menace, il vaut mieux la considérer comme un outil pour nous rendre plus efficaces. En combinant nos capacités avec notre expertise humaine, nous pouvons créer des contenus plus pertinents. L'IA permet de gagner du temps en automatisant certaines tâches répétitives, comme l'analyse des données ou l'optimisation des campagnes. Les professionnels peuvent alors se concentrer sur la stratégie et la création des domaines où l'humain garde l'avantage. Alors l'IA va-t-elle remplacer les communicants? Probablement pas. Tant que la créativité et la pensée critique restent en dehors de sa portée, elle sera un allié puissant, mais jamais un remplaçant. Quentin, en tant que professionnel depuis un certain moment, pensez-vous que l'IA va à terme remplacer les humains dans la sphère créative ou qu'elle se contentera toujours d'être une simple aide?
Oui, l'IA va tous nous remplacer. je l'espère. Déjà, on ne peut pas prévoir le futur et c'est dur de savoir exactement ce qui va se passer. Il faut toujours rester sur nos gardes face à cette nouvelle technologie qui émerge vraiment depuis quelques années, mais qui est là depuis très très longtemps. Le terme d'intelligence artificielle date des années 50 à peu près. Elle était vraiment développée dans les années 80 et 90, il y a eu un essor, et là il y a vraiment un essor énorme sur l'IA générative, parce que là on parle que de ça, mais il y a plein d'autres types d'IA. Je suis en train d'ouvrir des tiroirs, mais je vais revenir à la question initiale. Remplacer sur certaines tâches, oui c'est possible. Sur certains métiers, oui c'est possible, mais il faut prendre en compte que l'IA peut aider la pénibilité aussi de certaines tâches dans les métiers, et ça il faut vraiment l'utiliser comme ça, comme essayer qu'elle soit au bénéfice de l'humain réellement, qu'elle serve réellement l'humain dans certaines tâches. Dans les métiers créatifs, non, j'y crois, enfin pour l'instant non, j'y crois pas, et on le voit, non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, on n'en subit pas l'impact encore. Peut-être que je changerai d'avis dans 3-4 ans quand je me serai reconverti en boulangerie. C'est possible. Mais pour l'instant, non. Mais on reste sur nos gardes face à... C'est potentiellement une menace et potentiellement bienveillant. Voilà. On est dans l'entre-deux quand même. Voilà.
Merci Camille. Merci Quentin.
De rien.
Donc on continue. Est-ce que l'intelligence artificielle influence également votre approche du design pour le rendre plus efficace ou interactif ?
C'est pas que l'intelligence artificielle qui influence tout ça. Sur notre manière de concevoir des sites, donc de concevoir l'ergonomie, etc., il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et même sur tout le design, il y a ce qu'on va voir, ce qu'on va lire, Enfin, il y a énormément de choses, mais l'IA va nous permettre de répondre à certains questionnements qu'on peut se poser sur les comportements, en fait. Par exemple, si on fait des recherches, il n'y a pas longtemps, je me posais la question je faisais une maquette pour un site e-commerce et je me demandais si la page boutique, c'était mieux d'afficher en gris ou en ligne. Voilà, bon, question que tout le monde se pose dans sa vie. Et donc, j'aurais pu faire une recherche sur Internet comme je faisais avant pour savoir. Là, j'ai demandé à ChatGPT ou à Claude, je crois que c'était ChatGPT à ce moment-là, de trouver des études et des recherches qui parlent de ça pour avoir vraiment les comparaisons, de savoir quel est le mieux, le pour et le contre. Et en tout cas, quand je travaille avec une intelligence artificielle, je lui demande toujours de sourcer ces résultats pour que j'aille voir les sources initiales. Et ça, c'est important, je pense, pour faire ce travail constamment d'aller chercher les sources pour m'appuyer sur des vraies études. Voilà, donc là, ça m'a fait gagner du temps, effectivement, parce qu'en gros, l'IA m'a condensé un tas de recherches qui avait eu un tas de recherches ergonomiques là-dessus, et ça m'a aidé. Mais sinon, ça influence, pour l'instant, oui et non, c'est une aide plus qu'autre chose, quoi.
Puisque... D'accord. Alors justement, en tant qu'aide, est-ce que l'IA vous aide en particulier dans la gestion administrative ?
Pour l'instant, non, parce qu'on est une petite agence et on n'a pas... En tout cas, on n'a pas automatisé certaines tâches. Alors, comme la réponse d'email, tout ça, on ne l'a pas fait parce que déjà, on humanise tous nos... Parce qu'on est des humains, je crois. toutes nos relations clients. Pour nous, c'est super important. Si on fait ce métier aussi là, c'est le lien qu'on crée avec nos clients, tout ça. Et ça, on a toujours besoin de l'avoir. En fonction de mes clients, je ne vais pas répondre de la même façon à mes emails. Il y en a des clients auxquels je suis assez proche. D'autres, on a une relation purement professionnelle. Voilà, ça. Ça varie énormément, donc ça, je vois pas comment on pourrait l'automatiser pour l'instant. Mais je me dis, ouais, certaines tâches, par exemple, quand mon associé Aurélien fait de la saisie comptable, est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à faire sur automatiser la saisie comptable qui est, nous, on perd beaucoup de temps à faire ça. Alors, on pourrait le déléguer, on a décidé de le faire en interne. Voilà, donc pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais c'est à réfléchir, effectivement.
Très bien. On va aborder la notion de propriété intellectuelle.
Oui.
Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création graphique, comment gérez-vous la question de la propriété intellectuelle ?
Nous, on la gère exactement comme gèrent tous les États en ce moment, c'est-à-dire on fait l'autruche. Voilà. Non, nous, on la gère pas comme ça. On se pose réellement les bonnes questions. Mais je pense que c'est la question à se poser. Vraiment la plus importante en ce moment sur l'IA, c'est à qui appartient toutes ces données, d'où viennent toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, comment, enfin voilà. Et donc sur la création d'une image, en ce moment, rien n'est légiféré, il faudra peut-être un petit peu s'activer là-dessus et se mettre autour de la table et se poser les bonnes questions. Je ne dis pas que la solution est simple et rapide et qu'on va la trouver tout de suite, mais il y a un moment, en fait, il faut se la poser. Quand on crée une image, logiquement, dans le droit, cette image appartient, comme c'est une image qui a été créée par un logiciel, par exemple Midjourney ou ChatGPT ou DALL-E, voilà, l'image appartient au créateur du logiciel. Logiquement. Si on modifie cette image, si on a les droits logiquement de modifier cette image, ensuite elle appartient à celui qui va modifier l'image. Sauf que cette image qui a été créée, elle a été créée à partir de données. Et c'est là, est-ce qu'ils ont eu le droit d'aller piocher dans ces données ? Et ça, c'est la grande question. Parce que le problème, c'est que le droit sur la propriété intellectuelle n'est pas un droit international. Il est différent entre chacun des pays. En Europe, il est différent. En France, il est différent. Aux États-Unis, c'est encore différent. Bref, il y a tout un système assez complexe là-dessus. Donc, il n'y a pas... Sauf que l'IA, elle n'a pas de frontières. Elle va chercher un peu partout. Le web et Internet n'ont pas de frontières. C'est ce qui en fait sa beauté aussi, mais c'est ce qui fait que c'est un peu complexe à légiférer. Et il faut se poser cette question. Et même nous, on se dit, mais il y a un moment, même en tant que créateur, on peut se faire prendre nos images, et donc comment est-ce qu'on protège tout ça, et il va falloir rapidement mettre un cadre légal là-dessus, savoir, et que les concepteurs d'IA soient transparents sur la manière de travailler. Le problème, c'est que l'IA est assez complexe et même eux ne savent pas exactement comment fonctionne des fois leur IA, en fait, où est-ce qu'elles vont piocher toutes ces informations, parce que c'est pas juste on prend dans une base de données et on prend, il y a un système de réseau neuronal en gros numérique, enfin bref, il y a du deep learning, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans une IA, et c'est pas juste je prends une image et hop je la recopie, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, et savoir d'où est-ce qu'ils vont chercher ces données pour créer une image, je crois que personne n'est capable de dire d'où ça vient, mais il y a un moment, ouais, il faut se poser les questions, vraiment, c'est super important là. Faut protéger nos auteurs et nos autrices, faut protéger nos créateurs et nos créatrices, c'est super important. Le droit français est assez au point là-dessus, sur la protection des droits, l'image, enfin la protection sur les droits, et donc il faut avancer là-dedans, et je pense qu'il faut être fer de lance même d'un point de vue international pour dire ok, nous on se pose sur la table et on se pose les bonnes questions. Peut-être qu'ils le font déjà, j'en sais rien, mais j'ai rien vu passer en tout cas.
Oui, justement, on se posait la question sur la législation actuelle, est-ce qu'elle est adaptée pour encadrer la production artistique assistée par l'IA, Ou alors est-ce qu'il faudrait justement faire des réformes? Ça, ouais, c'est vraiment la question.
Ouais, les réformes, je sais pas, mais enfin, ouais, c'est... Non, pour l'instant, c'est bac à sable. C'est ouais. Tout le monde fait ce qu'il veut. et voilà, donc, y a un moment, soit tout le monde s'autorégule, ce que je ne crois absolument pas là-dessus sur l'humain, mais il y a un moment, donc il va falloir poser des codes, quoi.
C'est sûr. Et en parlant aussi d'éthique, avez-vous des inquiétudes concernant l'utilisation abusive de l'IA, notamment dans le vol ou l'imitation d'œuvres existantes?
Ouais, bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit là. Effectivement, il faut se poser ces inquiétudes. Moi, dans la communauté des graphistes, ça nous a malheureusement divisé en fait. Enfin, j'ai graphiste, illustrateur, toutes les personnes qui créent des visuels, ça nous a divisé. Il y a eu ceux qui ont été contre tout de suite par peur. Et moi, je les entends et je les comprends. Et nous, enfin, en tout cas, moi, je me suis plutôt posé en tant qu'expérimentateur de ça et de savoir comment ça fonctionne et d'essayer de voir jusqu'où on peut aller, vraiment dessiner les contours, voir quelles sont les problématiques, quels sont les avantages, tout ça. Et je pense que c'est mieux, enfin, à mon sens, d'être comme ça et à essayer d'aller vers l'avant. De toute façon, cette techno est là, donc elle est là, c'est comme ça, et elle sera toujours là. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment se poser ces problématiques de propriété intellectuelle, elles sont vraiment super importantes. Je pense que c'est une des clés, hein, des enjeux en ce moment sur l'IA, également au-delà du côté « Ah, c'est rigolo, je produis des images et des textes avec, ok, mais d'où ça vient et pourquoi ?»
C'est ça. Alors, si on envisage l'avenir, à votre avis, dans le domaine du graphisme, quels seront les prochains défis ou opportunités liés à l'utilisation de l'IA ?
Alors, donc déjà, légiférer. Super important, éduquer aussi. En fait, pour moi, il faut que tout le monde s'empare de cette technologie, enfin, tout le monde, ceux qui ont envie, mais d'un point de vue professionnel, il y a certains corps de métier qui ne seront pas forcément touchés, hein, mais il faut s'emparer de cette technologie avant qu'il soit presque trop tard pour pouvoir se l'accaparer et se dire comment est-ce qu'elle peut m'aider, moi, dans mon quotidien, dans mes tâches du quotidien. Ça, c'est vraiment... vraiment super important, donc il faut éduquer réellement les gens à ça, démystifier aussi un peu ce délire, parce que quand on voit certains médias, bon, j'aime pas allumer ma télé de toute façon, mais je sais pourquoi, mais certains médias qui parlent de l'IA, ils partent dans des délires, c'est n'importe quoi, on voit qu'en fait ils connaissent absolument pas. Démystifier aussi certaines choses, l'utiliser pour la démystifier, c'est important aussi, ou pour prendre peur aussi, c'est important, mais d'être face à ça et de se poser les bonnes questions. Donc il y a ça, légiférer, éduquer, et je pense que très important aussi de se poser la question de l'écologie derrière tout ça et de l'impact environnemental que peut avoir les IA. Au-delà de ça, le numérique évidemment, mais l'IA va être énergivore, incroyablement. Et donc, est-ce que vraiment je me sers de l'IA pour qu'il me fasse une photo de chat et que ça me fasse rigoler quand c'est derrière tout l'impact que ça peut avoir? Bon, pourquoi pas, on est libre de le faire. Et les enjeux éthiques peuvent être là-dessus aussi, quoi. Voilà.
En tout cas, que l'on soit pour ou contre l'IA, il y a tout de même une réalité à laquelle nous devons tous faire face et qui devient de plus en plus problématique, j'ai nommé les fake news. Marine, tu as étudié la question, nous t'écoutons.
Oui, bien sûr, merci Sarah. Déjà, bonjour à toutes et à tous et aussi à ceux qui nous regardent. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique s'installe de plus en plus et notamment l'intelligence artificielle dite IA. De plus en plus de personnes se servent de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Mais au-delà de ses bénéfices, elle soulève également des questions éthiques et sociales essentielles, notamment sur son rapport avec les fake news. Ces dernières prennent une grande place au sein de la population, ceci menaçant la confiance du public envers les médias et les institutions. Elles se propagent rapidement, surtout sur les réseaux sociaux où nos émotions sont biaisées, créant un environnement où il en devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. L'intelligence artificielle a été créée pour aider l'homme et pour être utilisée comme un outil, mais actuellement, elle contribue principalement à la désinformation en ligne et suscite beaucoup de doutes et de craintes. Car elle est aussi utilisée pour créer et propager de la désinformation, notamment avec la création d'images. Les réseaux sociaux façonnent de plus en plus notre perception de la réalité. Les acteurs de la désinformation diffusent pas moins de 1,5 milliard de publications mensongères chaque jour sur les plateformes numériques. Selon les recherches menées par IDécrypt Global, Facebook est la plateforme où le niveau de désinformation quotidienne est le plus élevé, avec 1 milliard de publications fausses créées chaque jour par ses utilisateurs. X, quant à lui, détient la plus grande proportion d'acteurs de la désinformation, représentant 8,7% de tous les utilisateurs actifs. Des algorithmes sophistiqués sont capables de générer des visuels réalistes et convaincants, rendant ainsi difficile la distinction entre le vrai et le faux. En effet, ils incluent des détails, des environnements réalistes et des personnages fictifs qui ressemblent à de vraies personnes. Ces dernières sont très fortes pour manipuler l'opinion publique grâce à leurs photos truquées, montrant des événements fictifs ou encore des personnalités dans des contextes compromettants, pouvant déclencher des réactions émotionnelles fortes. Nous avons tous vu les images du pape en doudoune. Plus problématique, les fausses images pornographiques de Taylor Swift générées par IA. Derrière cette campagne cherchant à décrédibiliser la star américaine, des groupes pro-républicains lui reprochant son soutien aux démocrates. Ces fausses images ont généré 47 millions de vues. De plus, X a été obligé de bloquer les recherches sur le nom de cette dernière. Cela a même provoqué une réaction de la Maison-Blanche, envisageant d'instaurer une loi pour lutter contre ce type de pratique. De plus, l'intelligence artificielle peut provoquer beaucoup de réactions lors des crises politiques, de catastrophes naturelles ou de conflits sociaux. En effet, cela ouvre la porte à des manipulations stratégiques visant à influencer les opinions publiques, discréditer des adversaires ou orienter des élections. Outre la photographie, l'IA permet la manipulation de vidéos. Des vidéos d'hommes et de femmes politiques peuvent être manipulées pour les montrer en train de faire des déclarations qu'ils n'ont jamais prononcées. Voici l'exemple de l'ancien président des États-Unis. Joe Biden semble maudire ses détracteurs, y compris en utilisant des insultes anti-LGBT. Cette séquence a en fait été tirée d'un discours du président dans lequel il dénonçait la violence politique. Le groupe PBS, qui avait diffusé le discours, a dénoncé l'utilisation de son logo sur cette vidéo manipulée. Dans un climat électoral tendu, ces fausses informations peuvent influencer directement les intentions de vote des citoyens. Ces images, facilement partagées sur les réseaux sociaux, atteignent rapidement des milliers de personnes, amplifiant l'impact de l'information fausse avant qu'elle ne puisse être démentie. De même pour les sites de désinformation ou de propagande. Ils avaient, il y a encore peu, besoin de nombreux rédacteurs pour alimenter leurs pages, mais l'IA générative leur offre désormais une manière plus rapide et surtout beaucoup moins onéreuse de leur produire du contenu avec l'apparence de l'authenticité. Cependant, il en devient difficile de distinguer le vrai du faux, même pour les utilisateurs expérimentés. Il existe des outils pour contrer ces dernières, mais l'évolution rapide des techniques de génération par IA rend la tâche complexe. Il est donc devenu crucial de sensibiliser le public à ces nombreux risques pour que chacun puisse faire preuve de discernement pour protéger l'intégrité de l'information et la confiance du public envers les médias numériques.
Merci Marine. Quentin, que pensez-vous de ce genre de fake news ?
Ça a rien à faire là et il faut être redoubler de vigilance en tant que citoyen face à toutes ces fake news, face à tout ce qui se passe. Après, c'est pas nouveau, les montages photos, des dictateurs dans les années 30-40 s'amusaient à effacer des personnes sur les photos à la main. Et donc on sait que ça a commencé très tôt, en fait, la manipulation de l'image. La manipulation de l'information, elle date pas d'il y a maintenant grâce à l'IA. Je pense qu'elle est aussi vieille que l'homme est vieux, en manipulée pour faire passer ses idées. Et donc il faut redoubler de vigilance et aller chercher les sources, recroiser les informations. On a cette chance avec Internet, avec le web, de pouvoir le faire facilement. Tout le monde peut le faire. Avant, avec la télévision, on ne pouvait pas aller faire ça facilement. Si le journaliste vous disait c'est ça, ben c'est A, c'est pas B, c'est blanc. Là, maintenant, on va pouvoir recroiser toutes les sources. Donc, on a de plus en plus d'informations, énormément. Et il faut les prendre et se dire, OK, ça, bon, se poser des questions avant d'y adhérer tout de suite, laisser le côté pathos de côté et se dire, j'essaye d'avoir une réflexion derrière et je vais aller voir si ça s'est réellement passé ou pas. Et ça prend quelques secondes pour vérifier une information. Soyons toutes et tous vigilants face à ça et faisons un travail de croiser l'information.
Très bien. Alors, on va finir avec une dernière petite question, même si vous avez commencé déjà partiellement à y répondre. Comment éviter les dérives de l'IA et avez-vous des conseils spécifiques vraiment pour éviter ça ?
Éviter les dérives de l'IA, c'est juste se responsabiliser aussi déjà chacun dans l'utilisation. C'est comme un outil, un couteau, c'est un outil. Il a été inventé pour cuisiner et pour que le boucher puisse couper sa viande et plein d'autres choses. Avec ça, je peux trancher une gorge aussi si je veux. Il y a un moment, j'ai un cerveau, je réfléchis, j'ai une éthique par rapport à ça. Donc l'IA au début, c'est tout nouveau, on jette un peu un corps perdu dedans parce que c'est marrant, mais donc faut se poser ces bonnes questions-là. Il faut un cadre aussi pour, je pense, pour légiférer tout ça. Faire attention à la propriété intellectuelle, vraiment se poser ces questions là-dessus, pour moi, c'est le plus important. Se poser les questions sociétales aussi sur est-ce que ça va remplacer des métiers, est-ce que ça va en ouvrir des nouveaux aussi, est-ce que ça va aider certaines personnes, je pense que oui aussi. Enfin, toutes ces réponses, en fait, toutes ces questions, je pense qu'on peut répondre oui et non pour l'instant. Et être vigilant face à l'évolution de tout ça. En tout cas, tous les professionnels du numérique doivent être vigilants et avoir cette phase de expérimenter, mais aussi se questionner. Et aussi se questionner sur l'avenir, c'est jusqu'où ça va nous emmener, cette IA. Et là, pour l'instant, on parle pour moi de petites IA, l'IA générative. Bon, ok, c'est très bien. Il y a des IA qui sont là depuis très longtemps pour nous aider à faire certaines choses dans plein de corps de métiers différents, aider à faire des calculs. Enfin, bref, c'est présent dans plein de corps de métiers. Hein. Là, on parle que de l'IA générative, mais il y a plein d'autres types d'IA. Et il faut se dire que Meta, OpenAI, toutes les grosses entreprises d'IA sont en train de réfléchir à ce qu'on appelle, et je finirai là-dessus, sur des AGI, donc AGI, des Artificial General Intelligence, qui elles ne sont plus des intelligences artificielles spécifiques comme on les connaît à l'heure actuelle, mais des grosses intelligences artificielles capables de raisonner et d'avoir un comportement humain réel et de résoudre différents problèmes à la fois, qu'ils soient mathématiques, sociétaux, créatifs, etc. Et là pour moi, ça pose une vraie question, une vraie problématique. Ça fait peur, ça peut commencer à faire peur, ça, un petit peu. Pour l'instant, rien n'est sorti. Vous avez, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir Q-Star, qui est un des projets apparemment d'OpenAI. Je dis bien apparemment parce que c'est que des fuites qui sont sorties pour l'instant, mais on sait qu'ils bossent dessus parce que c'est le Graal sur l'IA. Et là, si on refait une émission sur là-dessus, on se posera vraiment d'autres questions, on verra ça différemment. Donc, faut rester informé et voir jusqu'où ça peut aller, parce que là, ça posera d'autres réelles questions sur pas mal de choses.
Merci beaucoup, Quentin Belin.
Avec plaisir.
Pour avoir répondu à nos questions. On fait une petite pause et on se retrouve après. Nous sommes de retour dans cette seconde partie d'émission, toujours au sujet de l'intelligence artificielle, et nous allons nous intéresser maintenant à son impact dans le domaine de l'éducation. Avec la pandémie et l'essor de l'apprentissage en ligne, l'IA est devenue un atout important pour personnaliser et enrichir les parcours éducatifs. Pour en parler, nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés Christophe Lédier. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes formateur au Greta. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre formation ?
Alors, merci de m'accueillir. Donc, Christophe Lédier, donc, je suis formateur. Alors, j'interviens au Greta donc, de Gare-Lozère, voilà, dans le cadre d'une formation de développeur web. Mais j'interviens aussi pour d'autres organismes de formation, notamment un autre Greta. Donc, je ne fais pas que des formations liées au domaine du développement informatique, mais on va dire sur plusieurs aspects, à la fois numériques, voilà, principalement. Et je participe aussi dans un programme européen qui s'appelle alors Skill for AI, donc c'est écrit skills4ai.eu, et notamment qui aborde le domaine de l'IA dans l'univers de la pédagogie pour adultes principalement.
Voilà. Très bien. Comment avez-vous vécu l'arrivée de l'IA ?
C'est quand même assez récent. Donc, on va dire que c'est principalement ChatGPT qui a amené, on va dire, l'utilisation de l'IA par les étudiants. Donc, au début, j'avoue que j'ai plutôt vu ça d'un mauvais œil, tout de suite, en voyant les étudiants finalement s'en servir pour un petit peu déléguer les exercices, un petit peu déléguer leurs compétences, et pas forcément se les approprier.
Très bien. Est-ce que vous utilisez l'IA pour la conception de vos cours ?
Alors, en termes d'ingénierie pédagogique, actuellement, pas tellement. Alors, je m'en sers parfois sur des recherches de sujets pour faire plus de la synthèse. Pour ce qui est de la présentation de support, là, on va dire que pour le moment, je ne me sers pas de l'IA. Par contre, pour des évaluations, typiquement de la recherche de quiz, de questions autour d'un domaine en particulier, voilà, je peux solliciter l'IA pour me donner une trame de questions. Et après, c'est moi qui, bien sûr, vais faire le choix des questions qui vont être amenées à l'évaluation. Voilà, principalement des cas où je peux m'en servir. Après, il y en a peut-être un petit peu d'autres, mais pas forcément dans le cadre pédagogique.
Très bien. Alors, à propos de l'impact de l'intelligence artificielle dans les formations à distance, mon camarade Christophe va nous en dire un petit peu plus. Nous t'écoutons.
Bonjour Sarah, bonjour Christophe, merci à tous bonjour à tous et à toutes, merci de nous écouter, de nous regarder. Alors, ces dernières années, l'intelligence artificielle est devenue un sujet majeur dans la société et son impact pour l'apprentissage à distance ne cesse de croître. En tant qu'outil puissant, l'IA pourrait transformer la manière dont les formations en ligne sont conçues et proposées, en apportant de nombreux avantages tant pour les formateurs que pour les apprenants. L'un des principaux atouts de l'IA dans l'éducation en ligne réside dans sa capacité à personnaliser l'apprentissage en fonction du niveau de connaissance de l'apprenant. L'IA pourra adapter les cours de formation, les rendant plus ou moins complexes à mesure que la personne progresse. Cette approche permettrait de créer des expériences d'apprentissage plus ajustées aux compétences et aux méthodes d'apprentissage de chacun, avec un rythme plus soutenu et une progression continue. Les leçons personnalisées, basées sur l'IA, permettent aux apprenants de suivre un parcours sur mesure, sans ralentir leur évolution. Par exemple, si un étudiant répond correctement à une question, le système pourrait lui poser des questions plus difficiles, offrant ainsi un challenge plus approprié à ses capacités. A l'inverse, si des difficultés apparaissent, des questions plus faciles pourraient être proposées pour soutenir l'apprentissage. L'IA également pourrait également recommander des ressources supplémentaires, comme des vidéos, articles, blogs ou podcasts, pour enrichir l'apprentissage et offrir des nouvelles facettes en dehors du cadre formel de la formation. De plus, grâce à ses capacités prédictives, l'IA pourrait détecter les obstacles rencontrés par un apprenant et lui fournir un soutien personnalisé, ce qui est particulièrement crucial dans le cadre de l'apprentissage à distance, où l'interaction avec les formateurs se fait souvent à travers un écran. Malgré ses potentiels avantages, l'intégration de l'IA dans l'apprentissage en ligne rencontre encore plusieurs obstacles techniques. Tout d'abord, bien que l'IA soit capable d'évaluer instantanément les quiz et les tests, elle reste limitée dans l'évaluation des questions ouvertes, et les résultats fournis peuvent parfois être erronés ou difficiles à justifier. De plus, la mise en place de ces outils exige des compétences techniques spécialisées, et leur gestion requiert des ressources humaines et financières importantes. Le coût de développement, de formation et de mise à jour des outils d'IA est également un frein. Ces technologies nécessitent de grandes quantités de données pertinentes pour fonctionner efficacement. Et cela peut représenter un investissement considérable pour les entreprises ou institutions d'enseignement. En résumé, bien que l'intelligence artificielle offre des débouchés prometteux pour l'avenir de l'apprentissage à distance, il reste essentiel d'évaluer soigneusement son intégration afin de déterminer dans quel domaine elle pourrait véritablement améliorer l'expérience des apprenants et des formateurs.
Merci Christophe. Monsieur Lédier, une réaction à la chronique ?
Oui, bah, des points intéressants soulevés par, voilà, par Christophe. Je dirais qu'un des aspects qui n'est pas forcément abordé par l'IA, et moi en tant que formateur, c'est bah, justement tous les aspects humains de la formation, c'est-à-dire bah, voir, déceler, on va dire éventuellement les manques de motivation d'un apprenant, ou peut-être aussi un manque de concentration. Voilà, tout ça, même si l'IA, en s'appuyant sur des choses factuelles comme des quiz, peut tout à fait accompagner, il y a des perceptions qu'elle n'aura pas forcément auprès des apprenants.
Très bien. On va se concentrer sur le développement web. Selon vous, comment l'intelligence artificielle aide-t-elle dans l'écriture du code et la détection des erreurs ?
Alors, si on pense à vraiment l'écriture de code, ça fait très longtemps que dans les outils des développeurs, on retrouve des formes d'IA, où d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue automatisation, suggestion, dans le sens où, en fait, quand on commence à écrire une syntaxe de programmation, on va pouvoir nous proposer d'automatiquement écrire, on va dire, de compléter notre code, ce qui va nous faire gagner énormément de temps dans notre quotidien de développeur, puisque finalement on a beaucoup de redondance dans l'écriture d'un programme. Donc ça existe déjà. Après, sur la notion d'erreur, c'est également le cas en fait. Si on se trompe dans une syntaxe, alors je vais faire référence aux variables, voilà, si on nomme mal éventuellement un mot dans notre code, en fait ça c'est déjà le cas, en fait on est capable de détecter une erreur syntaxique. Donc à ce jour, on va dire, on a déjà des outils qui nous accompagnent. L'IA par contre, c'est vrai, peut nous offrir de l'aide sur peut-être la logique à développer derrière le code.
Voilà. D'accord.
Donc il y a des outils comme Copilot, qui existent déjà, qu'on peut intégrer aux outils de développement. Et en gros, on va plutôt soumettre une problématique de programme et l'IA va pouvoir nous suggérer un code qui répondrait à notre problème. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une part de vérification et le fait d'appréhender la problématique de la bonne forme.
Voilà. Mmh. Très bien. Est-ce que vous pensez que l'IA rend les développeurs plus polyvalents ou est-ce qu'elle tend à spécialiser certaines compétences ?
Je dirais que les deux, puisque finalement on peut tout à fait demander à notre assistant finalement des points bien plus précis sur une technologie, comme finalement pour certains langages qu'on ne maîtriserait pas. Une forme d'assistance sur comment est-ce que je pourrais faire ça, alors que j'ai pas une connaissance accrue du langage, pour qu'elle nous donne finalement la réponse qu'on aurait peut-être eu du mal à trouver par soi-même. Voilà, donc en fait les deux peuvent fonctionner.
Est-ce que vous voyez l'IA comme un atout ou comme une menace pour l'emploi des développeurs, en particulier pour les juniors ?
Alors, c'est toujours le ni noir ni blanc. Donc c'est forcément un atout pour les juniors, justement pour les aider à être beaucoup plus rapide au départ, se sortir plus rapidement de certaines problématiques, justement en s'appuyant sur cet assistant. Donc c'est sûr que ça peut les aider à progresser plus vite, ou du moins, je dirais plus, ne pas se bloquer des fois sur une problématique donnée. Si je dois prendre un petit peu les menaces, je dirais qu'à ce jour, par exemple, il y a peut-être des tâches qui pourraient être confiées à un junior, qui finalement, l'IA pourrait tout à fait réaliser. Je vais prendre un exemple de ce que j'ai fait récemment pour un site. J'avais une page de maintenance à faire. Donc juste pour indiquer aux visiteurs du site d'attendre le temps que le site revienne en ligne. Bah, j'aurais très bien pu demander à quelqu'un d'écrire la page. J'ai juste demandé à l'IA de me faire un texte et une mise en forme soignée pour pouvoir mettre ce fichier-là directement en ligne. Donc c'est une tâche que j'ai déléguée à l'IA, une tâche simple, voilà, qu'un junior aurait pu réaliser.
Est-ce que vous pensez que cette technologie pourrait creuser les inégalités entre ceux qui ont accès à ces outils et ceux qui n'en disposent pas?
Oui, clairement. En fait, on va dire que du moment où l'IA, comme je le disais, permet de gagner en efficacité, de pouvoir, par l'intermédiaire de l'assistant, nous amener une part de solution, la personne qui refusera ces outils-là, alors bien sûr, on n'est pas obligé de passer par l'IA, hein, si on reprend un petit peu la logique, on va dire, des développeurs d'antan, c'était de rechercher par soi-même, hein, on allait sur Internet, on avait des sites spécialisés, des communautés sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour nous aider. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais c'est jamais, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est face à un problème, c'est ce qui est formateur, c'est on va aller sur un site, on va voir d'autres développeurs qui ont rencontré la problématique, nous apprendre à comment traiter ce type de problématique, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc forcément, on va dire que l'IA peut des fois apporter une réponse plus rapidement, et que forcément ceux qui s'appuient sur ces technologies-là seront théoriquement plus efficaces que ceux qui refuseront totalement de s'en servir.
Bien sûr. En tant qu'enseignant, comment vous intégrez l'IA dans vos cours pour préparer vos élèves à l'avenir du métier?
Alors, je dirais que jusqu'à présent, moi j'ai plutôt été, puisque je m'adresse vraiment à des juniors, pour moi, le risque, il est que les juniors vont trop rapidement aller vers le ChatGPT, par exemple, pour obtenir les réponses. Et en fait, quelque part, c'est desservir un peu l'apprenant, dans le sens où il ne va pas se positionner face à un problème et se poser les questions de comment je résous le problème par moi-même. Il va attendre finalement que ChatGPT lui apporte la réponse. Là, je vais prendre un exemple, puisqu'on est en plus en début de formation. Là, on est en train de... On est en train de voir tout ce qui est pensée algorithmique, donc c'est quelque chose qui est nécessaire aux développeurs pour pouvoir appréhender le code. C'est quelque chose qui s'acquiert à force de faire. Et alors au début, on donne des leviers pour acquérir ces compétences-là. Et après, c'est à chaque développeur de, par des sujets, par des problématiques, de monter en compétences. Et ça s'acquiert que par la pratique. La pensée, ce type de logique, on va dire, propre aux développeurs.
D'accord. Est-ce que vous arrivez à déceler l'IA quand un élève s'en sert dans ses travaux?
Je vais être honnête, en fait, je ne cherche pas à savoir si l'IA a été utilisée. Je sais qu'il y a des outils qui existent pour scanner le code qui aurait été produit. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'interviens beaucoup plus sur de la formation par adulte. Et je dirais que de mon point de vue de formateur, nous, on responsabilise les apprenants en leur disant que c'est à eux de monter en compétences et que le fait de chercher à tricher, dans la formation pour adultes, on ne fonctionne pas comme d'un point de vue scolaire, on n'est pas là pour mettre des notes. Donc en fait, l'apprenant n'a aucun intérêt à essayer de tricher, à fournir un code qui ne serait pas le sien. Ça veut dire qu'en fait, il aurait juste délégué sa montée en compétences et en fait, c'est plus lui qui se dessert que... Voilà, donc tout ça, c'est un peu un discours de sensibilisation qu'on a auprès de notre public.
Bien sûr. À l'inverse, est-ce que vous avez pu déceler un impact positif grâce à l'IA sur vos élèves?
Oui. Alors, je m'en sers encore de façon un peu expérimentale. Je ne peux pas dire que c'est inscrit durablement et fortement dans les formations sur lesquelles j'interviens. Là, par exemple, je vais reprendre un exemple de ce matin, puisque j'étais en cours. Par exemple, on cherchait un exemple pour... de situations, de sujets autour d'un petit sujet d'algorithmie. Je suis allé sur ChatGPT, puis j'ai demandé un sujet simple. Et en fait, on a tout de suite trouvé un petit sujet pertinent qui a pu aider les apprenants à appréhender la problématique offerte. Et en fait, on va dire qu'on était dans une situation où je cherchais le bon exemple. Et justement, j'ai gagné du temps en me servant de ChatGPT. Et en même temps, en leur montrant que l'exemple qui avait été généré, Il y avait aussi la solution qui était apportée par ChatGPT. Donc, c'est une façon de dire, bah voilà, vous avez un exemple pour pratiquer et vous avez également la solution, même si j'émettrais des réserves sur la solution qui a été proposée, qui ne correspondait pas tout à fait aux consignes que moi j'avais données. Donc, il faut toujours faire attention à ce que l'IA génère.
Alors justement, quels sont les outils d'intelligence artificielle que vous recommandez à vos élèves pour améliorer leur productivité et leurs compétences ?
Comme je disais, je ne l'inscris pas durablement dans la formation. Donc à ce jour, en fait, je leur dis de s'intéresser, d'éventuellement d'aller sur ChatGPT, mais je ne leur dis pas utiliser tel ou tel outil. Voilà, donc c'est, je dirais que pour le moment, je n'ai pas de recommandation forte sur l'utilisation de l'IA en formation.
D'accord. On va aborder la question de l'éthique. Comment abordez-vous la question, justement, et ses limites d'utilisation dans le développement web et l'enseignement ?
Alors, évident. Je dirais que sur la partie sur l'éthique, c'est toujours, je reviens à la responsabilisation d'un étudiant. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'approprier des compétences. Enfin, généralement, quand on vient en formation, c'est pour s'approprier des compétences. Et que finalement, même si y a des rendus qu'on demande, c'est-à-dire qu'on est toujours tenté de se dire peut-être parce que je ne sais pas faire, aussi pour ne pas montrer aux autres que je n'y arrive pas, je serais tenté d'utiliser l'IA. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est finalement les valeurs qu'on veut avoir. Est-ce qu'on est là vraiment pour déléguer ou pour apprendre ? Donc c'est la responsabilité qu'on a face à la formation et face aux besoins d'acquérir ces compétences-là. Voilà.
Est-ce que vous avez des préoccupations concernant l'utilisation abusive de l'IA ? En particulier par les développeurs.
Oui, forcément. Oui. On va dire que dans la pratique abusive, ça serait finalement de demander à l'IA de générer l'intégralité d'un projet qui serait finalement peut-être vendu à un client. Peut-être aussi ce qui aura été vendu au client, c'est pas forcément le temps qu'aura passé le développeur qui aura finalement délégué toute cette partie-là, mais c'est surtout que c'est derrière finalement. Quelle est la garantie que le développeur va apporter à son site ? Qu'est-ce qui va garantir finalement que le développeur maîtrise ce qui a été produit par l'IA ? Et en cas de problème, ça peut arriver, un site internet, une image qui s'affiche mal, des choses que le client n'apprécierait pas, voudrait changer. Après, quelle est finalement la capacité du développeur qui n'a pas produit ce code-là à pouvoir revenir et à l'adapter aux besoins du client ? Voilà. Et je dirais qu'aussi, une autre dérive, c'est le côté que l'IA générative s'appuie finalement sur des modèles qui font un peu consensus et qu'en fait, le risque, c'est de produire quelque chose qui soit un peu fourre-tout, si je peux prendre l'exemple, en gros, et qui ne corresponde pas vraiment aux besoins du client. C'est-à-dire, on vous a produit un site. Si on prend par exemple un site qui parlerait d'un organisme de formation, on remarque par exemple que dans les IA, souvent, le modèle qui est pris, c'est le modèle américain. Vous savez, avec le diplôme, le chapeau carré, oui, la tunique noire. Ça, c'est des images qu'on va retrouver dans des sites américanisés. C'est-à-dire que si on fait un site de formation pour un site français, c'est ce genre d'image qui ne collera pas à l'identité de l'Europe ou de la France en général. Oui. Donc, c'est une des dérives. C'est que ça ne correspond pas forcément à ce que voudrait un client ou à l'image du client.
On va évoquer un petit peu l'avenir. Est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle véritablement remplacer certains aspects de l'enseignement traditionnel ?
Je dirais que oui, forcément. Forcément. Je pense que dans la partie évaluation, on peut clairement confier une partie de l'évaluation sous la forme de générer des questions en fonction du niveau des candidats, leur faire des retours sur les résultats, des évaluations sur leur... puisque tout ça, c'est factuel, donc c'est facile pour l'IA de générer une série de questions, de voir si l'étudiant s'est trompé. Donc ça, c'est assez classique, le fameux QCM, de déléguer à une IA. Et après, il y a plein d'aspects, un peu administratifs, sur lequel la génération de support de cours, même si moi je n'y recours pas, Je m'y intéresse quand même. J'ai vu des outils qui permettent voilà, de générer un contenu de formation sous la forme de même de carrément de PowerPoint. On peut aller jusqu'à créer l'intégralité d'un support de cours au travers de l'IA.
Vous voyez un danger pour dans le remplacement éventuel des profs ?
Bah forcément. Alors, le métier va forcément évoluer. C'est-à-dire que je redis ce que je disais au début de l'interview, c'est que il y a l'aspect humain. Ça, l'IA ne pourra jamais remplacer des fois, ne serait-ce que les échanges qu'on peut avoir avec les apprenants sur leurs doutes, l'accompagnement qu'on peut avoir, les leviers qu'on va mettre en place en fonction des craintes, en fonction de la motivation des apprenants. Donc tout ça, mais forcément, le métier va évoluer sur comment concevoir ces supports de cours, comment concevoir ces évaluations. On pourra tout à fait gagner en efficacité pour un résultat à peu près similaire à ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Très bien. Pour finir, avez-vous des conseils pour mieux utiliser l'intelligence artificielle comme un outil ou une valeur ajoutée ?
Forcément, oui, c'est de s'intéresser à ce qui existe, de voir à quel niveau on peut se l'approprier, toujours bien sûr avec un esprit critique. Voilà, donc dans les conseils, c'est de se dire ok, je recours à l'IA pour générer tel ou tel, tel ou tel support de cours, pour revenir là-dessus. Mais est-ce que finalement, est-ce que tout ce que j'aurais aimé apporter comme connaissance, comme compétence à un apprenant, a bien été abordé ? Est-ce que finalement, les explications qui sont données par l'IA sont peut-être les explications que moi j'aurais données ? Oui. C'est souvent, l'IA va dans une voie un peu qui fait consensus. Alors, certaines fois, les explications sont les plus compréhensibles par le plus grand nombre, mais peut-être que des fois, elles vont manquer de détails. Mmh. Et moi, quand j'interviens face à des apprenants, quand je vois qu'ils s'interrogent, j'hésite pas à trouver de nouveaux exemples, d'avoir des approches différentes pour expliquer une même chose. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Christophe Lédier.
Merci à vous.
C'est la fin de notre émission. Merci à tous nos invités, à nos deux invités d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à mes chroniqueurs pour leur travail. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout ou pas. En tout cas, on espère qu'on vous a apporté quelques éléments intéressants sur le sujet, ou au moins que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie et à une prochaine émission avec plaisir.